L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
C'est l'heure du LEM Sport sur Transistor. Pour cette émission, nous laissons le soin à Hugo de mener notre rencontre mensuelle. Nous sortons du traditionnel champ local pour prendre un peu de hauteur sur le foot. L'invité d'Hugo est journaliste et auteur du podcast Formation Football Club.
Bonjour à tous, bienvenue sur Transistor. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un très bel invité. Il est journaliste de sport, chroniqueur, streamer et créateur de podcast. C'est un passionné de football hors pair et vous le connaissez peut-être sous le pseudonyme de Scipion sur le réseau social Twitter. Merci à toi donc Scipion d'avoir accepté notre invitation. Salut.
Salut, merci beaucoup Hugo de m'avoir invité, ça fait plaisir.
C'est un grand plaisir, partagé également. Alors avec toi, on va évoquer ton parcours, ta personnalité, tes activités notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi des considérations plus générales sur l'actualité du football du moment qui est bien bouleversée et chamboulée. Et en fin d'émission, on parlera des performances de nos clubs bretons, le Stade Brestois au firmament, le FC Lorient en difficulté. C'est parti pour le LEM Sport du mois de février. Alors Adrien, pour commencer cet entretien avec toi, j'ai une question assez large à te poser. Si tu devais te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas du tout, qu'est-ce que tu mettrais en avant premièrement?
Ben écoute, c'est une très bonne question. Je dirais que j'ai une double casquette, à savoir la principale, la première qui est celle d'être journaliste sportif. Donc voilà, moi je suis sorti d'école en 2016. J'ai travaillé notamment pour l'équipe, France Football, un petit peu RMC. Aujourd'hui, j'écris pour Le Point, principalement sur le site internet. Et puis en parallèle, depuis quelques années, voilà, j'ai monté quelques petits projets, on va dire, sur internet, notamment comme tu as pu le dire, le podcast. J'ai créé Formation FC en 2020. C'est une émission où voilà, on parle principalement de formation de jeunes joueurs. Et puis de plus en plus, en se tournant vers Twitch, je fais partie de la bande d'hors-jeu avec Bruce Granek et Brac, et également sur YouTube. Donc voilà, on est un petit peu partout entre guillemets.
On va reparler de tout ça avec toi. Le contexte est très bien planté. Ton attrait pour le journalisme, en particulier donc pour le journalisme de sport, il te vient d'où? Où est-ce que tu viens piocher un petit peu ces origines de cette vocation?
Ah forcément, tout commence par la passion pour le sport en elle-même. C'est mon père qui me l'a transmise en allant au stade, en regardant les grandes compétitions à la télévision. Voilà, au début des années 2000, au collège, j'hésitais entre soit ça, soit prof d'histoire. Alors j'ai longtemps gardé le cursus histoire puisque j'ai fait une licence dans cette matière. Mais voilà, je savais que j'allais me tendre vers le journalisme assez tôt. Quand j'étais adolescent, je savais que je voulais faire ça, et j'ai pu passer les concours d'école, et voilà, c'est venu en lisant forcément l'équipe, France Football, 11 mondial aussi à l'époque, c'est en regardant pas mal de matchs, les DVD, les rétrospectives Coupe du Monde commentées par Christian Jean-Pierre, je m'en souviens, en plus c'était l'époque où les DVD commençaient vraiment à sortir et tout, et les tout premiers DVD que j'ai eu chez moi, c'est vraiment ouais, l'histoire de la Coupe du Monde jusqu'à 98, donc c'est là que j'ai pu encore plus, voilà, m'y intéresser et avoir cette curiosité, cette passion.
Ça commence évidemment par un déclic, un déclenchement de passion, et le foot pour ça est assez extraordinaire, tout comme le sport en règle générale. Tu l'as évoqué en introduction de cette émission, après avoir passé les concours, après avoir suivi ton cursus pour devenir journaliste, tu as rapidement diversifié ton activité en utilisant Internet et les réseaux sociaux. Quels étaient les objectifs initiaux pour toi? Je pense notamment à la création de ton compte Twitter, le fameux Scipion.
Alors honnêtement, il n'y avait vraiment pas au début un objectif professionnel, parce que quand je suis sur Twitter à ses débuts, quand je crée mon compte en 2012-2013, moi pour moi c'est vraiment pour discuter avec les potes de fac, les connaissances, voilà, avoir des petits intérêts communs, un réseau social, tu vois, c'était comme à l'époque Facebook où on découvrait ça, il n'y avait pas d'attrait supplémentaire. Et puis au fur et à mesure, tu vois, c'est vrai que le compte a plutôt pris, on va dire, en audience, voilà, au fur et à mesure du temps. Et de plus en plus, c'est vrai qu'il y a des propositions qui sont venues, notamment, tu vois, pour commenter des matchs, faire des live tweets et tout. Donc je me suis dit, c'est vrai que c'était un support qui était intéressant. Je faisais beaucoup, on va dire, de blagues au début, mais de plus en plus, on s'est un peu recentré sur de l'analyse. Donc c'est 50%, voilà, je commente, je parle des matchs que je vois. Et 50%, on reste sur un ton humoristique, on va dire, léger. Et puis voilà, c'est de là que c'est venu ensuite, tu vois, les propositions, les partenariats, mais tout a commencé vraiment sur Twitter, ouais.
Oui, tout a commencé sur Twitter, et là encore, tu en parles pertinemment, parce que tu as vécu des époques différentes, on va dire, sur ce réseau social et sur la manière qu'il avait d'être traité, notamment par rapport au football. Comment tu perçois non pas forcément l'évolution de Twitter qui est devenu X maintenant, mais plutôt la manière dont différents créateurs comme toi ont pu bénéficier d'une exposition de plus en plus importante, d'opportunités de plus en plus importantes. Est-ce qu'il y a un événement pour toi déclencheur qui a fait que, d'un certain point de vue, vous avez gagné en légitimité et aujourd'hui, vous êtes quasiment des personnes qui sont tout aussi importantes dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'influence du milieu médiatique, footballistique. Est-ce qu'il y a un moment qui a changé la donne?
Je ne crois pas qu'il y ait eu de déclic particulier, mais je pense que c'est... Et je ne parle pas là de mon cas, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens sur Twitter qui avaient cette passion du football, qui étaient notamment, tu sais, ce qu'on appelle des scouts d'Internet, qui regardaient énormément de matchs, des championnats qu'on n'a pas l'habitude, qui étaient des gros travailleurs, des gros bosseurs, et qui avaient voilà, une appétence pour ce football que certains, peut-être, ne regardaient pas... de manière assidue. Et finalement, je crois que les clubs ont commencé à regarder ces profils-là parce que ce sont des gens qui maîtrisent les codes Internet, qui savent se servir de logiciels pour regarder des matchs, qui savent aussi utiliser la data. Et globalement, ça leur a grandement servi. Ensuite, pour au-delà de cet aspect scout, je pense que les autres personnes et Internet, je pense qu'il y a un mélange de tout. Les médias traditionnels ont besoin d'évoluer. J'en suis encore convaincu. Et aujourd'hui, c'est vrai que si on reste que sur du format radio, télé ou papier, seul, on risque de ne pas avancer. Donc c'est pour ça que de plus en plus, ces personnes se sont dit « Tiens, mais c'est vrai que ces streamers, ils ont leur communauté, ça peut être pas mal pour s'intégrer. » Tu vois, je pense à Zach Nani qui a animé une quotidienne sur l'équipe durant la dernière Coupe du Monde. Il y a RMC qui allait chercher des personnes du Club des Cinq comme Elton Mokolo et Walid Acharchour. Il y a cette espèce d'émulation où finalement les médias se rendent compte que on peut parler foot aussi librement, sans forcément, tu vois, être passé, je sais pas moi, une dizaine d'années par une rédaction, sortir d'une école de journalisme. Aujourd'hui, tu vois, tout le monde peut parler de foot justement grâce à l'exposition qui est Twitter, qui est YouTube, qui est Twitch. Alors évidemment, on peut pas donner la parole à tout le monde, faut, tu vois, comment dire, une certaine légitimité, faut se faire une place, mais c'est quand même des profils, tu vois, qui n'ont pas forcément eu besoin de travailler au Parisien, au Monde, à l'équipe pour s'exprimer là-dessus.
Oui, c'est une diversification des profils que l'on peut entendre et lire parfois qui est assez plaisante, on le voit bien, de Zach Nani à Kevin Nieto, en passant par Walid Acharchour sur des domaines différents. On voit bien qu'il n'y a pas un parcours linéaire pour avoir un type d'opportunité précise et c'est assez plaisant en tant que spectateur ou même en tant que futur journaliste peut-être. Ta passion pour le football, elle n'est pas à démontrer. Tu regardes un très grand nombre de matchs. Tu as une activité très large autour de ce sport, on en a parlé au début d'émission, mais au fond, dans toutes tes activités et même dans tout ce qui touche au football de façon globale, qu'est-ce qui aujourd'hui, là, au 8 février 2024, te plaît le plus ?
On va dire la découverte quand même, encore une fois, parce que forcément il y a des chocs que je ne rate pas, type Liverpool Manchester City, parce que c'est des matchs incontournables. Il y a les grandes compétitions, on attend toujours l'Euro, la Coupe du Monde, les derniers matchs de Ligue des Champions, mais c'est vrai que quand tu suis un petit peu le football d'à côté, on va dire les jeunes joueurs, les championnats dont on n'a pas l'habitude de parler, c'est toujours bien, tu vois, de se dire tiens, quel petit jeune peut percer, découvrir aussi ce qui se cache derrière ce club, la culture de la formation, son identité. Et je me dis que, tu vois, au final, même s'il y a des clubs que j'adore, que je suis tous les week-ends, parce que c'est forcément le métier, je me dis que aller découvrir autre chose dans d'autres pays et voir ce qui se passe, moi, ça m'intéresse grandement. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on voit qu'un football, je vais pas dire qu'il est de plus en plus homogène, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de différences. On peut le voir dans certaines grandes compétitions, il y a des écarts importants. Mais tu vois, rien que la Coupe d'Afrique des Nations, où tu dis, la Mauritanie peut battre l'Algérie, la Namibie peut battre la Tunisie. Tu dis que, c'est des pays qui, il y a quelques années, ils étaient très, très loin au classement FIFA. Aujourd'hui, ils peuvent concurrencer sur un match des grandes nations. Alors peut-être, c'est quelque chose qu'on verra pas à l'Euro. Quoique, on sait pas, on a déjà vu l'Islande taper l'Angleterre. Mais je me dis que ça peut être, intéressant de comprendre comment ces petits pays se développent petit à petit.
Oui, il y a de plus en plus de grandes histoires dans les petites histoires et ça va bien.
Exactement.
Du poncif, il n'y a plus de petites équipes que bon nombre d'entraîneurs ont l'habitude de déclarer, notamment aux conférences de presse. Le fait que tu parles ici de découverte va nous permettre de rebondir sur un mot précisément. Sur le ton de l'humour, sur Twitter, il t'arrive régulièrement de dire que tu es un hipster du football. Alors, tu en as peut-être un peu parlé là, mais qu'est-ce que tu mettrais derrière ce terme, toi ?
Justement, c'est quand tout le monde est passionné par les très grands matchs, les Real Barça, etc. C'est se dire, moi, je peux être là en disant, tiens, allez regarder... aller regarder un Saragosse Tenerife, quoi. Même si c'est évidemment, c'est exagéré des fois, c'est voilà, pour prendre le contre-pied. Mais moi, je me dis que forcément, il y a aussi l'attrait du maillot, l'attrait du club. Moi, c'est vrai que je collectionne pas mal les maillots et c'est souvent dans ces clubs-là qu'on retrouve des superbes pièces. Voilà, c'est aussi ce côté un peu, je vais pas dire fashion, mais j'aime bien le maillot esthétique et aussi différent. Et après, oui, le footballisteur, c'est forcément ce qu'on peut retrouver en Europa League, en Conference League, et ça rejoint un phénomène qui est assez intéressant, c'est que ces championnats-là, on va dire la Scandinavie, même la Belgique, il y a quelques années, c'était des championnats, on va dire, pas suivis non plus par grand monde, qui étaient des territoires où tu pouvais aller chercher des très bons joueurs pour 4-5 millions d'euros. Je t'invite à voir désormais les montants qui sont dépensés pour les talents de ces pays-là. Bah voilà, Gift Orban et Malik Fofana, ça part pour 15 millions d'euros chacun à Olympique Lyonnais. Rokon Haraldsson a été recruté par le LOSC pour le même montant. Aujourd'hui, tu vois, même ces championnats-là qu'on présente comme des divisions un peu voilà deepster du football où c'est intéressant à écouter, bah aujourd'hui, t'es obligé d'aller voir, d'aller dépenser un bon petit chèque pour attirer ces joueurs-là. Donc même là, et ce qui me projette sur l'étape d'après, c'est quel championnat, forcément, tu vois, on va aller chercher les talents qui seront un peu moins chers que désormais la Belgique et la Scandinavie. Est-ce que ce sera la Pologne? Est-ce que ce sera, je sais pas moi, la Serbie? Forcément, c'est des questions qui m'intéressent.
Tu as parlé ici des maillots, des transferts à bas coût, des bonnes idées de recrutement, des histoires autour des clubs, de la ferveur un petit peu. En ce sens-là, il y a un phénomène qui est en train de gangréner le football à l'international, c'est le phénomène des multipropriétés. On prend par exemple ici localement en Bretagne l'exemple de ce qui est en train de se dérouler à Lorient avec Bill Follet qui possède désormais 40% des parts du club et des échanges réguliers entre Bournemouth et Lorient. En témoigne le transfert très rapide de Dango Ouattara l'année passée outre-Manche. Toi, quel regard tu portes sur ce phénomène-là? Est-ce que justement c'est pas en train de commencer à dénaturer notre passion un peu première à toutes et à tous?
Bah forcément, il y a une vraie inquiétude, à savoir que des clubs qui ont une identité, qui sont installés dans la ville, qui reprennent beaucoup de choses pour les supporters, vont devenir des équipes réserves, des tremplins pour les jeunes joueurs d'un autre club censé être plus gros, plus huppé. Et puis Bournemouth, oui, c'est en Première Ligue, mais tu vois, ça n'a pas non plus une histoire folle comparée à Lorient. Évidemment, il y a plus de moyens, mais c'est sûr que si t'es un supporter des Merlus aujourd'hui, tu l'as mauvaise, comme pour les Strasbourgeois, devenir une filiale de Chelsea, surtout quand tu vois comment c'est géré là-bas. Ça fait pas forcément rêver, mais j'ai malheureusement le sentiment que ça va se poursuivre, que ça va continuer pour pas mal de clubs. On voit de moins en moins, tu sais, de présidents, on va dire, chefs d'entreprise, entrepreneurs, qui détiennent ces clubs à 100%, qui sont voilà les hommes forts. Aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup des investisseurs étrangers, c'est des États de temps en temps. Et des fois, tu te retrouves dans une sorte de machine à laver où tu sais même plus quelle est ta place. Regarde juste la situation de l'Estac, quoi. On est sur un club en mauvaise posture en Ligue 2. On sait pas ce que le City Group veut faire avec. Ils ont laissé un entraîneur, Kisnorbo, pendant un an, faire
un peu. Il avait pas gagné un match quasiment, ouais. C'était assez.
Ouais, il a fait 3 victoires en un an. Enfin, ok, 3.
Improbable.
Trois, c'est pas le PSG, mais 3, c'est quand même une équipe qui peut faire des résultats bien meilleurs que ça. Et du coup, c'est forcément l'inquiétude qui va résider pour la Ligue 1, parce qu'on sait que la santé économique des clubs n'est pas bonne, on sait que le deal CVC risque de retomber sur la tête de beaucoup beaucoup de présidents qui pensaient, comme Mediapro à l'époque, que ça allait être un jackpot. Donc moi, je ne serais pas étonné de voir de plus en plus de clubs français devenir entre guillemets, les petits de clubs européens.
Après ces moments passés à parler des clubs, revenons-en un petit peu à toi. Tu en parlais brièvement tout à l'heure, en 2020, tu as lancé le podcast Formation Football Club. Est-ce que tu peux nous le présenter brièvement?
Ouais, bien sûr. Bah, Formation FC, c'est parti d'un projet que j'avais à l'époque quand je travaillais pour Gaulle, où j'avais une petite chronique qui s'appelait le carnet du scout, où je présentais un jeune joueur prometteur. Bon, à l'époque, tu vois, c'était Jadon Sancho, c'était Lucas Paqueta notamment. Donc, c'était pour essayer de dire aux lecteurs qui étaient les talents à surveiller pour demain. Et on avait peut-être l'idée, tu vois, d'en faire carrément une émission, un podcast pour en parler comme ça dans la rédaction. Et tu sais comment ça marche dans ce type de projet. Il y a pas le temps, il y a pas les moyens financiers. Donc j'ai mis ce projet entre guillemets dans un tiroir. Et puis je me suis retrouvé au chômage pendant un certain temps, et je me suis dit, mais en fait, cette émission, je dois pas attendre d'être installé dans une réaction, parce que je sais qu'il y aura toujours le même cercle vicieux où je devrais faire mes preuves et il y aura peut-être pas le temps, etc. Donc je me suis dit, vas-y, J'ai le temps, je me lance dessus. C'était un peu bricolé à la va-vite. J'avais fait quand même une formation radio à l'école journaliste, donc je savais comment monter, je savais comment faire du son, etc. Et le projet a su trouver, je pense, son public, à savoir des éducateurs, des personnes qui s'intéressent aux jeunes joueurs, des journalistes, etc. En sachant que voilà, l'objectif, c'est d'être assez large, à savoir à la fois présenter les jeunes joueurs à suivre dans les prochaines années. C'est aussi se faire des focus sur la manière dont les clubs travaillent dans les centres de formation et donner la parole aux éducateurs, à savoir bah, quel est leur quotidien, quelles sont leurs méthodes de travail, comment est-ce qu'ils font des discours dans les vestiaires, comment est-ce qu'ils gèrent voilà la créativité de leurs joueurs, est-ce qu'ils mettent des séances de futsal. C'est plein de questions vastes et j'ai fait une trentaine d'éducateurs interview. Il y en a aucun qui ressemble à un autre au niveau de sa méthodologie. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis écoute, voilà, ça fait 4 ans que le podcast est lancé. J'ai fait désormais, je ne fais plus un format radio, mais plutôt un format vidéo. Comme ça, voilà, les gens peuvent aussi nous voir. Je peux projeter de temps en temps des vidéos. Le chat qui est à mes côtés peut aussi poser des questions, parce que c'était l'objectif que je voulais aussi mettre en place, à savoir que les personnes pouvaient aussi voilà donner leurs remarques, poser des questions directement aux invités. Et voilà, aujourd'hui, on est plutôt bien installé.
Oui, effectivement, ça a pris de l'ampleur très très vite et de plus en plus. On sent ton envie de l'améliorer. Foncez donc écouter Formation FC sur toutes les bonnes plateformes. On va revenir sur l'actualité footballistique du moment. On va parler un petit peu de la Ligue 1 et bien sûr de nos clubs bretons, le Stade Brestois et le Football Club de Lorient. On va commencer par l'actualité chaude, puisqu'au moment où on enregistre cet entretien avec Scipion, le Stade Brestois s'est incliné hier soir en 8e de finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain sur le score de 3-1 après que Liam Rassier ait été exclu alors que les Brestois étaient revenus à 2-1. En dehors de cette défaite, puisque Brest était invaincu notamment depuis 3 mois, le SB 29 réalise une saison extraordinaire. Ils sont pour leur 3e de Ligue 1. Quelles sont selon toi les clés de la réussite des hommes d'Éric Roy que peu attendaient à ce niveau?
Bah, j'ai envie de dire la stabilité, la continuité du maintien acquis avec Panache et surtout un homme Éric Roy qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là sur le banc, parce que ça faisait très très longtemps, plus d'une décennie qu'on ne l'avait pas revu coacher un club. Et honnêtement, il a très très bien su, on va dire, amener ce groupe de copains, parce que ça se voit qu'à Brest, ça vit très bien, sur des objectifs très élevés, bien plus haut que ce qu'on attendait. Et maintenant, l'objectif, bah, forcément, c'est le genre de saison où t'as envie que ça aille au bout. Alors pour moi, au bout, peut-être la Ligue des Champions, ça va être un peu trop tendu de tenir le rythme. Mais je me dis que ce Brest-là, on peut accrocher une Coupe d'Europe sans souci. Au niveau de la concurrence, bah, voilà, tu le dis, il y a Nice, Monaco, Lens, Lille, l'OM est un peu loin, Rennes va revenir, mais dans quelle mesure? Brest n'a plus de compétition à jouer. Ils ont un groupe qui tourne très bien et encore plus, ils ont su conserver leurs éléments clés cet hiver. Brassier n'est pas parti, Loco n'est pas parti, Lesmelou aussi est resté. Du coup, bah, t'as envie d'être un petit peu optimiste et te dire que cette équipe, elle tourne très très bien. Elle est très difficile à bouger chez elle. Elle sait aussi bien se déplacer, elle sait bien voyager. Donc en vrai de vrai, c'est une magnifique saison que réalise Brest. Et les supporters peuvent être fiers de cette équipe qui vraiment... moi, j'ai vu certains matchs où c'était étouffant. C'était un jeu intense, quelque chose que j'aime beaucoup pratiquer. On compare souvent ça avec voilà le Liverpool de Klopp. Mais honnêtement, jouer à une équipe où des joueurs s'éclatent dans ce projet-là, quoi.
Oui, c'était assez impressionnant. On pense notamment à des matchs contre Lyon, ou plus récemment contre Montpellier et contre Lorient, surtout avec une éclatante victoire 4-0 dans le derby. Et justement, du côté de la ville aux 5 ports, dans le Morbihan, du côté du Football Club de Lorient, la saison est bien, bien en deçà des attentes. Les Merlus sont relégables malgré 4 points sur 6 sur les deux derniers matchs. Quel regard portes-tu sur ce qui se passe en ce moment pour les hommes de Régis Le Bris après une saison dernière qui avait été assez exceptionnelle, notamment un démarrage, 25 points en 10 matchs, une deuxième place, Terem Mofi et Dango Ouattara au firmament, puis tout ça a semblé s'écrouler. Qu'est-ce que tu en penses?
Je suis assez partagé, je t'avoue, parce que je trouve que la première partie de saison est vraiment très ratée. Et pour moi, Lorient filait tout droit vers la Ligue 2. Et il y avait beaucoup de signes inquiétants, notamment ben voilà Le Bris qui voulait rejoindre Nice, ça n'a pas fait. On sent qu'il y a une petite cassure aussi avec lui, et le recrutement de joueurs qui peut-être correspondaient pas au FC Lorient, comme Benjamin Mendy, comme Timo Bakayoko. Dans le sens, je parle pas du comportement, mais c'est vraiment, tu vois, en termes de standing de joueurs et surtout de joueurs qui n'avaient pas joué depuis longtemps, qui n'avaient peut-être pas le niveau physique pour apporter à une équipe qui bah, doit se battre encore plus dans un championnat resserré à 18 équipes pour sa place. Et du coup, pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont fait sur cette première partie de saison que Lorient s'est un petit peu cassé la figure. Et là, bah, cet hiver, j'ai l'impression qu'on est revenu aux fondamentaux, à savoir du recrutement, du scouting efficace. On allait chercher des profils qu'on n'attendait pas forcément, Mohamed Bamba notamment, le prêt de Louza qui m'a l'air d'être une excellente idée. Et du coup, 4 séries, c'est aussi le grec. Et ouais, on se remet la tête à l'endroit. Et là, je vois un Lorient qui commence à prendre des points, qui commence à avoir une allure bien plus intéressante. Là, je me dis que pour le maintien, bah, tu vois, je suis beaucoup plus optimiste. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de matchs à disputer, mais tu vois, par rapport à la dynamique d'un Metz, d'un Clermont, voire de Nantes ou Montpellier, je trouve que cet hiver, Lorient est une des équipes de Ligue 1 qui a le mieux recruté.
Le supporter que je suis te rejoint à 200%, et c'est vrai qu'on va espérer pour les Lorientais que la situation se redresse sur le long terme, mais en tout cas, le recrutement, par exemple, de Panos Castellet, c'est 100% FC Hipster compatible. Ça, c'est sûr. Ça, c'est complètement sûr. Pour terminer cet entretien avec toi, Scipion, question un peu globale. On est encore en début d'année, même si on a basculé en février. On est sur une année d'Euro, on est sur une année de Jeux Olympiques. La Ligue des Champions, les phases à élimination directe vont démarrer la semaine prochaine. Alors, quel est ton vœu footballistique pour cette année 2024? On sait que tu es supporter des Girondins de Bordeaux. Qu'est-ce que tu as envie de voir en particulier?
Bah forcément, par rapport à Bordeaux, on aimerait espérer une montée en Ligue 1, mais là, c'est trop utopique, donc on va se contenter de sauver sa petite place tranquillement en Ligue 2. Après, oui, pour l'Euro, j'aimerais beaucoup que la France la remporte, parce que ça fait 24 ans, il y a eu l'échec de 2016, il y a eu la sortie précoce de 2021, et on sent que voilà, il y a une équipe qui est mûre, qui est mature, qui a beaucoup appris aussi de la défaite face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022. Il y aura une grosse concurrence, forcément, quand tu regardes l'Angleterre avec Foden, Bellingham, Kane, Saka, ça fait un petit peu tourner la tête. Mais voilà, j'ai envie de voir comment la France va assumer ce statut de favori. Et c'est vrai que ça fait longtemps, et en plus, tu vois, Deschamps, ça lui permettrait de tout remporter, quoi. Ligue des Nations, Coupe du Monde, et terminer sur ça, en plus de ce qu'il a pu accomplir en tant que joueur.
Ce serait une performance assez extraordinaire qu'on a toutes et tous hâte de suivre, pardon, sur Radio Évasion et partout ailleurs. Merci à toi, Scipion. C'était vraiment un grand plaisir. On aimerait toujours que ce soit plus long d'échanger football entre passionnés. Merci à toi. On va continuer à suivre tes projets, tes interventions dans Hors-Jeu, tes podcasts et bien sûr ton compte Twitter absolument mythique. Merci, Scipion.
Merci à toi, merci pour l'invitation, c'était super.
Merci Hugo pour cette rencontre forte, intéressante. Le LEM Sport continue et on retrouve Fred cette fois-ci à la météo. Tu voulais nous parler de Jeux Olympiques, mais de Jeux Olympiques quelque peu étonnants.
Et oui, mon cher Pierre-Yves, pour cette météo de février, pour les évadés du sport, je ne vous parlerai pas du printemps qui pointe le bout de son nez et qui annonce la promesse d'une belle saison sportive, avec en point de mire l'Euro de football et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Eh bien non. Et une raison à mon scepticisme? Eh bien oui, puisqu'une idée complètement folle et farfelue germe depuis quelques mois dans l'esprit de certains, afin de créer une compétition parallèle aux Jeux Olympiques et dans laquelle le dopage serait autorisé. En résumé, des Jeux Olympiques sous stéroïdes, où la prise de produits dopants pour l'amélioration de la performance serait la norme, et où donc les athlètes se doperaient ouvertement et honnêtement et de manière encadrée. Non, non, vous ne rêvez pas et c'est très sérieux. Un projet fou, me direz-vous? Eh bien, pas tant que ça, à en croire certains qui travaillent d'arrache-pied pour que des jeux améliorés voient le jour. Et la règle dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, c'est justement qu'il n'y aurait plus de règles. À l'origine de ce projet aussi fou que sidérant, un milliardaire allemand, Peter Thiel, richissime homme d'affaires, fondateur de PayPal et actionnaire de Facebook, qui avec à ses côtés une cohorte d'apprentis sorciers, médecins, scientifiques, avocats, afin que des jeux améliorés voient le jour. Accrochez-vous, l'argumentaire est le suivant. Les Jeux améliorés sont les Jeux Olympiques du futur. Et pourquoi, me direz-vous alors? En considérant que 44% des athlètes utiliseraient déjà des produits pour améliorer leur performance, il est temps de célébrer la science en toute sécurité dans une compétition où tout serait bon pour améliorer la performance humaine jusqu'à son paroxysme. Selon les initiateurs du projet, il y aurait certes dopage, mais de manière drastiquement encadrée afin que la santé des participants ne soit pas mise en danger. Bon, la bonne blague. Ces jeux améliorés viseraient alors à faire progresser la science et ainsi devenir l'événement sportif le plus sûr au monde, avec des partenariats avec les meilleurs scientifiques et laboratoires pharmaceutiques pour développer des protocoles médicaux complets avant la compétition et ainsi garantir et protéger la santé des participants. Ces jeux comprendraient 5 épreuves principales. Natation, gymnastique, haltérophilie, athlétisme et combat, et se dérouleraient une fois par an sur des sites sportifs existants. À coup de millions de dollars, leur lobbying va bon train Et sur leur site internet, on peut lire que d'autres détails seront attendus le 17 avril prochain. On en salive déjà. Par ailleurs, ils prévoient également de faire la promotion de leur événement à l'occasion des JO de Paris, qui se dérouleront, rappelons-le, dans la capitale du 26 juillet au 11 août prochain. Des sportifs ont déjà fait part de leur intérêt pour participer à de telles compétitions. Et pour cause, un cachet d'$1 million leur serait proposé pour y participer et devenir ainsi les cobayes de ces compétitions du futur. Alors, pour ou contre les JO des dopés ? Annonce-t-il la fin du sport propre ? Je laisserai chacun se faire son propre avis, mais il est sûr que dans un monde en mutation, où l'argent est roi et les progrès de la science vont bon train, avec la promesse de résoudre tous nos problèmes, cette idée a de quoi faire retourner dans sa tombe le baron Pierre de Coubertin et renverser les valeurs de l'olympisme qui ont fait le ciment des valeurs du sport et du dépassement de soi.
Eh bien, merci beaucoup Fred pour cette chronique. Je me posais la question si ça n'existait pas déjà en fait.
Bon, c'est juste une officialisation de ce qui peut se faire.
Ok, ouais, c'est mauvaise langue ce qu'on va dire. Merci Fred, merci Hugo et merci à son invité. On se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain rendez-vous du LEM Sport sur Transistor.
LEM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.